29 mars 1974, le jour où le roi Crimson a célébré sa messe noire. King Crimson, Starless and Bible Black. Depuis sa nouvelle mutation l'année précédente, King Crimson est vraiment devenu un groupe de scène dont la musique naît, se transforme et s'étire de salle en salle et de concert en concert. L'improvisation est désormais au cœur du processus créatif du roi Crimson, pour le plus grand plaisir du capitaine Fripp, qui désire créer une musique plus spontanée, sans la moindre concession, et du batteur Bill Bruford, qui avait quitté Yes, pourtant en pleine ascension, à la recherche d'une expérience musicale plus aventureuse. L'album Lark's Tongue in Aspic, qui a ouvert cette nouvelle ère, cumule toutes ses qualités, et en plus a été couronné de succès. L'adaptation scénique Dance va encore plus loin, en faisant quasiment table rase du passé et en étoffant le répertoire du groupe de longues improvisations. Si bien qu'au sortir de la tournée, lorsque King Crimson prend quelques semaines de repos, il n'y a plus vraiment de nouveau matériel. Robert Fripp décide donc de s'isoler dans sa maison avec un calepin et sa guitare et en ressort à l'automne 1973 avec trois nouvelles compositions. Il aboutit deux chansons, ébauchées par John Wetton et le parolier Richard Palmer James, ex-guitariste de Supertramp, et Fracture, une longue plage instrumentale d'une complexité hors pair dont seul Fripp en a le secret. Un peu trop court cependant pour en faire un album. Tout au plus, le groupe peut espérer remplir une face de disque. Et avec l'entrée en studio prévue pour janvier 1974, la tâche s'annonce difficile. Qu'à cela ne tienne, c'est une fois de plus sur scène que le roi Crimson va régler la question. Une prestation entière du groupe au Concertgebouw d'Amsterdam est aussitôt enregistrée de manière professionnelle en vue d'en exploiter les meilleurs moments d'improvisation scénique. Au final, Starless and Bible Black est un album hybride qui brouille les pistes. Le matériel studio peu conséquent est fondu avec des parties enregistrées en public dont les applaudissements ont soigneusement été effacés. Tout comme son prédécesseur, le nouvel opus est majoritairement instrumental et bénéficie d'un son cru presque précurseur du rock industriel. Les trois chansons qui émaillent le disque traitent de l'intégrité artistique et de sa fragilité sous différentes formes. Il y est question de vendre son âme au diable, de gloire passée et de dépendance et compromission sur le modèle de la vie de Rembrandt. Starless and Bible Black est donc, comme son nom l'indique, une œuvre noire dans une nuit sans étoiles. Mais pour le roi Crimson, l'apocalypse rouge reste encore à venir avant de retourner dans les ténèbres.
Shine, shine. The light of good work shine. The watch before the city gates depicted in their prime. The golden light all grimy now. 300 years have passed. The worthy captain and his squad of troopers standing fast. The artist knew their faces well, the husbands of his lady friends, his creditors and counselors, in armor bright the merchantmen, official moments of the guild and poses keen from bygone days, city fathers frozen there upon the canvas, dark with age. Smell of paint, a flask of wine, and turn those faces all to me. The blunderbuss and halberd shaft of Dutch respectability. They make their entrance to one by one, defenders of that way of life. Red brick home, the bourgeoisie, and guitar lessons for the wife. Many years
as we suffered here, our country wracked with Spanish wars. Now comes the chance to find ourselves. Quiet reigns behind our doors. Think about posterity again. Painter's hands request you all to understand.